C'était une journée agréablement fraîche d'octobre. Installé au bord d'un ruisseau, dans une jolie prairie des hautes terres où jamais aucun Taïbo ne s'était aventuré, Naut Da s'attela à la rude tâche de dépecer des bisons de 700 kilos. Ce travail, comme presque tout ce qui touchait aux bisons, à l'exception de la chasse et de l'abattage, revenait aux femmes. Chez les Comanches, ces dernières découpaient la viande en lanières pour la faire sécher. Elles tannaient les peaux, préparaient les fourrures et récupéraient la panse, les tendons et la moelle des os, ainsi que la cervelle écrasée et toutes les autres parties de ces créatures énormes dont dépendait l'existence du Noumounou. Les femmes assuraient également toutes les autres tâches. Elles cuisinaient, s'occupaient des enfants et des chevaux, et démontaient le campement quand les pâturages n'étaient plus suffisants ou que des ennemis s'approchaient dangereusement. Il leur arrivait de prendre les armes, en général pour se défendre, et elles accompagnaient les hommes au cours des raids. Naut Da ne dérogeait pas à cette règle. Il est impossible de dire si elle était heureuse ou si elle s'attendait à l'être dans cette vie, qui se résumait pour elle à une succession infinie de tâches ardues et figées. Il y avait quelques joies, comme les enfants. Elle en avait trois. L'aîné, un grand gaillard prénommé Kwana, avait 12 ans. Le cadet, Peanuts, quelques années de moins. Quant à sa fille, Totseha ou Prairie Flower, elle n'était encore qu'un petit bambin. S'il y avait un sens à parler de bonheur sur la frontière, on peut dire que Naut Da avait un mariage heureux. Son mari, Petan Okona, un géant musclé à la peau sombre, était un éminent chef de guerre comanche. Elle bénéficiait de son statut social, mais aussi du fruit de sa chasse. Il participait souvent à des raids et possédait de nombreux chevaux. Selon les critères en vigueur dans les plaines, ils étaient donc riches. La scène se passait en octobre 1860. Un mois plus tard, l'élection d'Abraham Lincoln à la tête des États-Unis d'Amérique entraînerait la dislocation de la nation Comanche et la mort de 1 million d'hommes. Mais tout cela échappait à Naut Da et à sa famille. Le peuple Comanche percevait très bien la présence de l'homme blanc, rien ne lui échappait. Ni la présence de troupes, ni les pulsations et le renforcement de la colonisation, ni la détermination de l'armée. Il comprenait pourquoi le gibier disparaissait des territoires de chasse. Mais il percevait tout depuis ses lointaines plaines. Une vaste région du centre du continent américain où, étonnamment, presque rien n'avait changé. La vie familiale de Naut Da n'était guère différente de celle d'une Comanche en 1760, voire en 1660. Il restait des bisons, le peuple faisait toujours la guerre, il régnait toujours en maître sur 95% de ses terres ancestrales. Naut Da n'avait pas la moindre idée de ce qui se tramait. Elle faisait ce qu'elle avait toujours fait et disposait encore quelques mois pour profiter de la vie immémoriale d'une femme du Noumounou. Elle vivait sur un vaste campement d'au moins 500 personnes. La base d'opération et le dépôt de ravitaillement d'un grand nombre de pillards, une sorte de plaque tournante où transitaient les marchandises, le bétail et les chevaux, y compris volés, à destination de marchés extérieurs. C'était de la logistique indienne à grande échelle. On y trouvait de tout en abondance, ce qui suggère un niveau de planification et d'organisation insoupçonné chez les Comanches. Le village était installé près de la Peace River, qui prend sa source dans le Texas Panhandle et serpente vers l'ouest, le long du corridor nord du Texas, puis se jette dans la Red River. Avant leur confluent au sud de l'actuelle ville de Kwana, entre 15 et 20 kilomètres au nord de Crowell, le Mule Creek, un ruisseau limpide, alimenté par des sources, rejoint la Peace River dans une longue vallée bordée de collines découpées, de chênes, de peupliers et de micocouliers. Le paysage était joli, sobre. La rivière, les collines et les crêtes à pic perçaient de vastes plaines élevées. Le village se trouvait à 200 kilomètres environ de la ligne de colonisation qui, à l'automne 1860, passait juste à l'ouest de Fort Worth. Le travail de Nauda était salissant. Parfois, elle était couverte de graisse, de sang, de moelle et de chair de bison, au point que sa chevelure et sa peau, naturellement claires, devenaient presque noires, au point qu'il aurait été difficile de reconnaître en elle la femme blanche du campement indien. Tout en travaillant, elle surveillait ses enfants. Elle allaitait toujours sa fille, Prairie Flower. Ses garçons jouaient, même s'ils étaient en âge de chasser avec leur père, Pitanokona. Ce dernier passait son temps à traquer des proies et à piller les colonies blanches. Tout l'été et jusqu'au début de l'automne, il mena une vaste série de raids dévastateurs dans les comtés texans, compris aujourd'hui entre Fort Worth et Wichita Falls. Nokona attaquait la nuit, à la lueur de ce que beaucoup de Texans appelaient déjà la lune Comanche. Selon Hillary Bedford, un habitant du comté de Parker, les nuits de lune, les gens étaient terrorisés. Je me rappelle très bien l'époque où les belles nuits de pleine lune n'étaient pas une source de plaisir, mais la pire des calamités. Des familles et des colonies entières furent anéanties. Les Youngblood et les Ripie, des patronymes à jamais perdus pour l'histoire, disparurent, ne laissant que des ruines fumantes et des corps trop mutilés pour pouvoir être identifiés. Les pillards s'emparaient du bétail et des chevaux. La plupart des raids de cette époque étaient suivis de vols. Bedford les attribuait à Pétanokona. Cette région constituait son territoire de chasse ancestrale, et Nokona et ses guerriers la connaissaient par cœur. Comme ils se déplaçaient la nuit, il était presque impossible de les appréhender. Les blancs paniqués qui occupaient un arc de cercle à l'ouest de Fort Worth semblaient incapables d'arrêter ces attaques. En mars 1860, le gouverneur Sam Houston autorisa le colonel Middleton Johnson à former un régiment de Texas Rangers pour punir les Indiens aux frontières nord et nord-ouest de l'État. 2 ans auparavant, Rip Ford, qui avait remporté une magnifique victoire sur les berges d'Antelope Creek, avait souhaité poursuivre les Comanches au cœur même de leur terre. Mais on lui avait coupé les fonds. À présent, Johnson levait 2 compagnies. Elles se dirigèrent vers le nord, jusqu'à Belknap, où elles s'installèrent. On ignore précisément qui furent les recrues de Johnson et quels furent ses critères. Mais ces hommes n'avaient manifestement rien à voir avec les Texas Rangers de Hays. Complètement désœuvrés, ils tuaient le temps en attendant les raids indiens. Quand les 300 Rangers furent enfin prêts au combat, ils ne trouvèrent aucun indien. Pendant l'été, Johnson et ses recrues furent trompés, distancés et de manière générale humiliés comme ne le furent jamais les hommes de Hays. Selon un témoignage, un jour après un raid manqué, ils décidèrent de rentrer. Ils n'avaient pas trouvé Pitanokona, mais ce dernier n'eut apparemment aucun mal à les repérer. La nuit venue, les Indiens chargèrent le camp des Rangers et firent fuir leurs chevaux, obligeant les hommes blancs à repartir à pied. Une autre fois, alors que les Texans se dirigeaient vers l'Oklahoma, des Indiens les contournèrent par le sud, volant 75 chevaux et tuant plusieurs colons au cours d'une virée de 4 jours. Les Rangers firent demi-tour, jurant de les anéantir, mais durent finalement regagner Fort Belknap car leurs chevaux n'avaient plus de fourrage, les Indiens ayant mis le feu à la prairie. L'échec de l'unité de Johnson illustrait une vieille réalité de l'Ouest. L'art de combattre les Comanches se diffusait au mieux de manière sporadique et irrégulière le long de la frontière. La terrible humiliation subie par l'institution des Texas Rangers intéresse peu de monde. Si les Indiens avaient décrit la frontière nord-ouest du Texas en 1860, ils auraient peut-être qualifié Pitan O'Connor de brillant tacticien. Tout comme les historiens rapporteraient par la suite les exploits de Nathan Bedford Forrest, le remarquable stratège confédéré. Victorieux, Pitan O'Connor regagna les berges du Mule Creek avec des scalps, du bétail et des chevaux. À la fin novembre, il mit de nouveau le cap à l'est, vers la frontière, à la tête de 55 guerriers. Cette fois, le raid fut plus cruel et vindicatif qu'au début de l'automne. Ces hommes virèrent à l'ouest de Mesquiteville, aujourd'hui Jacksboro, et enfoncèrent la ligne de colonisation, tuant tous les blancs sur leur passage. Près de Weatherford, ils attaquèrent le ranch de John Brown, s'emparèrent de ses chevaux, le transpercèrent de plusieurs lances et lui tranchèrent le nez. Ils traversèrent la rase campagne sous une pluie torrentielle et arrivèrent à Stag Prairie, à la limite occidentale du comté de Parker. C'est là, aux confins de la frontière ensanglantée, dans la région la plus dangereuse de l'État du Texas, qu'un Benet nommé Ezra Sherman, qui ne possédait même pas de fusil, avait décidé d'installer sa femme, Martha, et leurs trois enfants. Le 26 novembre, 17 braves appartenant au groupe de Nokona se présentèrent chez Sherman. C'était l'heure du dîner. Les Indiens pénétrèrent dans la cabane en rondins, serrèrent la main des occupants, puis réclamèrent à manger. Les Sherman, nerveux et ne comprenant pas très bien ce qui se passait, cédèrent leur place à table. Quand les Indiens eurent terminé le repas, ils mirent la famille à la porte, tout en les assurant à plusieurs reprises de leur bienveillance. « Vamous, » dirent-ils, « pas faire mal, vamous. » Le fils des Sherman, âgé de 7 ans, prit la fuite et se cacha. Les autres se sauvèrent le plus vite possible, traversant péniblement leurs champs sous une pluie battante, en direction d'une ferme voisine. Ils ne furent pas assez rapides. À 700 mètres de leur cabane, les Indiens réapparurent. Ils attrapèrent Martha, enceinte de 9 mois. Pendant que Ezra et ses 2 enfants continuaient d'avancer, ils ramenèrent Martha à 200 mètres environ de l'habitation. Puis ils la violèrent. Lorsqu'ils eurent terminé, ils la transpercèrent de plusieurs flèches avant de commettre un acte d'une rare cruauté, y compris pour des Comanches. Ils la scalpèrent vivante. Ils pratiquèrent de profondes entailles au-dessous de ses oreilles, puis écorchèrent entièrement le haut de son crâne. Comme elle l'expliqua plus tard, l'opération ne fut pas aisée et prit un certain temps. Ensanglantée, elle parvint à ramper jusqu'à sa maison, que les Indiens n'avaient pas réussi à brûler à cause de la pluie, où son mari finit par la trouver. Elle survécut 4 jours et parvint à raconter son histoire à ses voisins. Elle donna naissance à un enfant mort-né et décéda, probablement d'une péritonite. Les Comanches connaissaient cette infection et dirigeaient souvent leurs flèches vers le nombril de leurs victimes. Un demi-siècle plus tard, la propriétaire d'un ranch du comté de Palo Pinto, qui avait vu Martha après l'attaque, se souvint d'un spectacle effrayant. 22 autres colons furent tués par les hommes de Pitan O'Connor en l'espace de 2 jours, les 26 et 28 novembre 1860. Les habitants de la frontière considérèrent l'agression de Martha Sherman comme le meurtre aveugle et absurde d'une chrétienne par une tribu primitive, impie et bestiale. Madame Sherman n'avait fait de mal à personne. Elle n'avait commis aucun acte de guerre. En réalité, la violence qu'elle subit n'était ni aveugle ni absurde. Martha Sherman fut autant victime de l'affrontement de forces politiques et sociales que des flèches et poignards des pillards de Pitanokona. Sa mort avait bel et bien un sens. Elle était le résultat de l'invasion sans précédent de la Comancheria par les colons à la fin des années 1850. Les Sherman n'occupaient pas les collines stériles du plateau d'Edwards, à l'ouest d'Austin et de San Antonio, où les troupeaux de bisons ne s'aventuraient que rarement. Mais ils habitaient la prairie luxuriante qui s'étendait au-delà des Cross Timbers, dans le nord du Texas, et comprenait les riches terres à bisons pour lesquelles les Comanches se battaient depuis le début du XVIIIe siècle. Les pionniers, protégés par une ligne de forts fédéraux bâtie au début des années 1850, s'étaient progressivement enfoncés vers l'ouest. Mais la vraie ruée n'eut lieu qu'à la fin de la décennie, au moment où la colonisation blanche, qui grignota 80 km, atteignit une ligne traversant l'actuelle ville de Wichita Falls, c'est-à-dire bien au-delà des limites où elle s'était jusqu'alors cantonnée. Les cabanes flambant neuves du comté de Parker symbolisaient cette présence grandissante. Et bien que Martha Sherman fût sans doute une femme pieuse et bien intentionnée, elle et son mari incarnaient cette incursion tumultueuse, chaotique et ouvertement agressive en territoire ennemi. C'est en tout cas ce qu'estimaient les Comanches. Cet automne-là, les bisons avaient pris la direction du sud, se heurtant aux fermes des Blancs. Et les Comanches, qui se tenaient à l'écart de la frontière, ne mangèrent plus à leur faim. L'expédition cruelle de Pitanokona, dans le nord du Texas, était donc un acte politique, assorti d'objectifs politiques. Tout comme la décision des Sherman de construire leur cabane dans l'ouest du comté de Parker, bien qu'elle fût peut-être moins consciente. Les deux camps convoitaient les mêmes terres et voulaient faire céder l'autre sans lui offrir une digne compensation. Les raids menés par Pitanokona en 1860 étaient une vraie guerre de territoire. L'enjeu était crucial. Tout changeait. En 1836, la population du Texas était de 15 000 personnes environ. En 1860, elle s'élevait à 604 215 personnes. Galveston, Houston et Austin, en pleine expansion, commençaient à ressembler un peu moins à des bourbiers parcourus de cochons qu'à des centres de civilisation urbaine. En 1836, le Texas ne disposait que de quelques chemins de terre défoncés, destinés aux chariots. En 1860, des milliers de kilomètres supplémentaires avaient vu le jour, en plus de 450 kilomètres de voies ferrées. Le problème, comme le démontra le raid de Pitanokona, c'est que les Comanches continuaient de les éviscérer, torturer, violer, et capturé, sans que le Bureau des Affaires Indiennes de Washington ne sût apparemment comment les arrêter. De temps à autre, on assignait à des troupes la glorieuse mission de briser à jamais la puissance Comanche. De temps à autre, elles parvenaient en effet à trouver des Comanches et à en tuer un nombre considérable. Mais ces expéditions n'avaient aucun sens. Elles n'empêchaient rien. Il n'y avait pas de volonté concertée de poursuivre l'ennemi jusqu'au cœur enténébré de cette terre pour le détruire. Les attaques se poursuivirent donc, s'aggravant même à partir de 1857. La plupart étaient le fait de bandes Yamparicas, Cotzotenocas, Noconis et Coadis, qui évoluaient toujours aussi librement dans leurs bastions de l'extrême nord-ouest. Les Kiowas, tout aussi intouchables au-delà de la Canadian River, lançait également des raids, souvent avec les Comanches. Les vieilles habitudes réapparaissaient, à peine altérées, sans que rien ne change réellement. La grande vague de colonisation américaine avait déferlé depuis les côtes de l'Est, traversé l'ouest des Appalaches, puis le Mississippi. Elle avait connu un bref instant d'espoir et d'optimisme en franchissant le 98e méridien dans le sillage de Sherman et d'autres colons. Et soudain, elle s'était brisée et essoufflée sur la vaste et redoutable barrière qui avait déjà arrêté les Espagnols, les Français, les Mexicains et les premiers Texans. Les Grandes Plaines. Cette région qui s'étendait jusqu'au Canada recelait toujours les formidables machines de guerre Sioux, Arapaho, Comanche, Kiowa et Cheyenne.
Extrait tiré de L'Empire de la Lune d'été de S.C. Gwynne. Chapitre 10. La guerre à mort.